Chapitre 10. Aucun des deux Blaine ne répondit pendant un long, long moment, et quand il répliqua enfin, ce ne fut pas par le biais des mots. Les murs, le sol et le plafond recommencèrent à perdre de leur consistance et de leur couleur. En l'espace de 10 secondes, le compartiment de la baronnie cessa encore une fois d'exister. Ils filaient à présent à travers la chaîne de montagnes qu'ils avaient aperçue à l'horizon. Des pics gris-acier se précipitaient à leur rencontre à une vitesse suicidaire, puis s'évaporaient pour dévoiler des vallées stériles où rampaient de gigantesques scarabées tels des tortues prisonnières des terres. Roland aperçut ce qui ressemblait à un serpent gigantesque jaillir subitement de l'entrée d'une grotte. Il attrapa un des scarabées et, dans une torsion de tout son corps, se replia dans sa tanière. Roland n'avait encore jamais vu d'animaux pareils ni de contrées semblables, et ce spectacle lui donna la chair de poule. Il était possible que Blaine les eût transportés dans un autre monde. « Peut-être vais-je nous faire dérailler par ici ?» La voix de Blaine avait un ton méditatif, mais le pistolero perçut en dessous une rage profonde et vibrante. « Peut-être que tu devrais, » dit-il, avec indifférence. Eddie était dans tous ses états.
« Mais qu'est-ce que tu fabriques ? »
articula-t-il muettement. Roland l'ignora. Blaine seul l'occupait, et il savait parfaitement ce qu'il était en train de faire. «
Tu es grossier et arrogant, ces traits de caractère te paraissent peut-être fort intéressants, mais pas à moi !»
« Oh, mais je peux me montrer encore plus grossier !»
Roland de Gilead, décroisant les doigts, se mit lentement debout. Il n'était campé sur rien, semblait-il, les jambes écartées, la main droite posée sur la hanche et la gauche sur la crosse de santal de son revolver. Il se tenait ainsi qu'il l'avait toujours fait lors d'innombrables affrontements dans les rues poussiéreuses de villes oubliées, au cœur de canyons rocheux ou de sombres saloons, empestant la bière aigre et le graillon. Ce n'était qu'un règlement de compte final de plus dans une rue déserte. C'était tout, et c'était déjà bien assez. C'était Kafka et Katet. Que l'affrontement ait lieu cette fois avec des mots et non avec des balles ne faisait aucune différence. Ce serait un duel à mort comme un autre. L'odeur du massacre empuantissait l'air de façon aussi palpable que celle d'une charogne pourrissant dans un marécage. Puis la rage d'en découdre fondit sur lui comme toujours, et il entra dans un état second.
« Je pourrais te traiter de machine absurde, dénuée de cervelle, de bêtises non sensiques. Je pourrais te traiter de créature stupide et mal avisée qui n'a pas plus de raison que le souffle du vent d'hiver dans un arbre creux. »«
Ça suffit !»
Roland poursuivit du même ton serein, ne tenant aucun compte de Blaine.
Tu es ce qu'Eddie appelle un gadget. Si tu étais davantage, ma grossièreté ne s'en tiendrait pas là.
Je suis bien plus qu'un simple...
Par exemple, si tu avais une bouche, je pourrais te traiter de suceur de bite. Je pourrais te dire que tu es le plus infâme gueux qui se soit jamais traîné dans la plus ignoble fange de la création. Mais une telle créature te vaut 100 fois, car tu n'as même pas de genoux sur lesquels te traîner. Et si tu en avais, tu ne saurais même pas t'en servir pour t'agenouiller, car tu n'as aucune notion de cette faiblesse humaine qu'on appelle la pitié. Je pourrais même te dire, nique ta mère, si seulement t'en avais une. »
Roland s'interrompit pour reprendre haleine. Ses trois compagnons retenaient leur souffle. Le silence abasourdi de Blaine le mono les environnait, suffoquant. Je pourrais te traiter de créature perfide qui a laissé se suicider son unique compagne, de lâche qui s'est délectée de la torture des simples d'esprit et du massacre des innocents, de lutin mécanique géniard et paumé qui...
Je t'ordonne de te taire ou je vous tue tous à l'instant!
Les yeux bleus de Roland flamboyèrent avec une telle sauvagerie qu'Eddie se recula en se faisant tout petit. Il entendit Jake et Susanna halter faiblement.
Tue-nous si ça te chante, mais ne t'avise pas de me donner des ordres!
Rugit le pistolero.
Tu as oublié jusqu'au visage de ceux qui t'ont fabriqué! Décide-toi! Soit tu nous tues, soit tu te tais! Et tu m'écoutes, moi, Roland de Gilead, fils de Stephen, pistolero et seigneur des vieilles terres! Je n'ai pas parcouru tant de lieues ni tant d'années pour t'écouter débiter des inepties puériles. Tu m'as bien compris ? Dorénavant, c'est moi que tu vas écouter.
Suivit un autre silence choqué. Personne n'osait respirer. Roland, tête haute, regardait droit devant lui, l'air farouche, la main sur la crosse de son revolver. Susan Adine mit la main devant sa bouche pour dissimuler un sourire. Ce faisant, elle évoqua une femme déplaçant un nouvel accessoire, un petit chapeau bizarre, par exemple, qu'elle remettrait d'aplomb. Elle redoutait de toucher au terme de son existence, mais pour l'heure, ce n'était pas la peur qui dominait dans son cœur, mais la fierté. Jetant un coup d'œil sur sa gauche, elle vit Eddie qui considérait Roland avec un sourire ébahi. L'expression de Jake était encore plus simple à déchiffrer. Elle reflétait l'adoration à l'état pur.
« Vas-y !»
souffla Jake.
« Botte-lui le cul tout de suite !»«
Tu ferais mieux de faire gaffe, Blaine !» déclara Eddie. « Il ne fait pas dans le détail. On l'appelait pas le chien fou de Gilead pour rien !»
Au bout d'un long moment, Blaine demanda « C'est ainsi qu'on te surnommait Roland, fils de Stephen. »
« Ça se peut !»
répliqua Roland, debout calmement sur le vide, au-dessus des contreforts stériles.
« À quoi me servez-vous si vous refusez de me poser des devinettes ?»
Blaine, maintenant, avait tout d'un enfant boudeur et ronchon à qui on a permis de veiller trop tard.
« Je n'ai pas dit que nous refusions, » déclara Roland.
« Non ?»
fit Blaine, qui parut désorienté.
Je ne comprends pas. Pourtant, l'analyse de l'empreinte vocale indique un discours rationnel. Explique-toi, s'il te plaît.
Tu les as réclamés tout de suite, répondit le pistolero.
Voilà pourquoi j'ai refusé. Ton impatience était inconvenante.
Je ne comprends pas.
Tu t'es montré grossier.
Et ça, tu comprends ?
Il y eut un long silence méditatif. Cela faisait des siècles que l'ordinateur ne rencontrait chez les humains qu'ignorance, laisser-aller, superstition et servilité. Et plusieurs airs qu'il n'avait eu devant lui, un être simplement courageux.
Si ce que j'ai dit t'a paru grossier, je te présente toutes mes excuses,
énonça-t-il pour finir.
« Je les accepte, Blaine, mais il y a un problème autrement plus important. Explique-toi. Referme le compartiment et je le ferai. »
Roland se rassit comme si toute discussion ultérieure et la perspective d'une mort immédiate étaient désormais impensables. Blaine obtempéra. Les murs reprirent leur couleur et le paysage de cauchemar défilant au-dessous d'eux fut à nouveau occulté. Le tracé de la carte clignotait à présent près du point symbolisant Candleton.
« Très bien. La grossièreté est pardonnable, Blaine, » dit Roland. « C'est ce qu'on m'a enseigné dans ma jeunesse. Mais on m'a aussi appris que la sottise ne l'est jamais. En quoi ai-je fait preuve de sottise, Roland de Gilead ?»
La voix de Blaine était d'une douceur lourde de menaces. Susanna songea à un chat tapi à l'entrée d'un trou de souris battant de la queue, ses yeux verts brillants de malveillance.
« Nous possédons quelque chose que tu désires, » dit Roland, « mais la seule récompense que tu nous offres en échange, c'est la mort. C'est de la dernière stupidité. »
Il y eut un très long silence tandis que Blaine réfléchissait à ce que venait de dire le pistolero.
Puis, ce que tu dis est vrai, Roland de Gilead, mais la qualité de vos devinettes reste encore à démontrer. Je ne veux pas vous récompenser en vous laissant la vie sauve contre de mauvaises devinettes.
Roland approuva du chef.
Je te comprends parfaitement, Blaine. Maintenant, écoute-moi et tâche de comprendre à ton tour.
J'en ai déjà parlé à mes amis. Du temps de mon enfance, dans la baronnie de Gilead, cette fête avait lieu chaque année. Celle de l'hiver, de la terre vide, des semailles, de la mi-été, de la pleine terre, de la moisson et du terme de l'année. Si les devinettes occupaient une place importante dans chacune d'elles, elles constituaient l'événement majeur des fêtes de la terre vide et de la pleine terre, car celles qu'on y posait étaient censées présager en bien ou en mal l'issue des récoltes.
C'est de la superstition sans fondement. Je trouve cela d'un ennui affligeant.
Bien sûr que c'était de la superstition, concéda Roland. Mais la justesse de ces devinettes à prévoir les récoltes te surprendrait peut-être. Par exemple, devine un peu ça, Blaine. Entre une grange et une mère grand, quoi de différent?
Elle est archi-éculée et pas très intéressante,
fit Blaine, qui parut heureux toutefois d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent.
Rien de différent, toutes deux muantes. L'une est parente, l'autre soupente, rien qu'une banale coïncidence phonétique. Du même acabit, on trouve celle qu'on raconte au niveau de la baronnie de New York. Quelle différence il y a entre un général et une horloge?
Jake prit la parole. Je la connais. L'horloge a son tic-tac et le général sa tactique.
Oui, une contre-pétrie des plus stupides.
Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Blaine, mon pote, dit Eddie.
Je ne suis pas ton pote, Eddie de New York.
Bon Dieu, va te faire foutre au plus haut des cieux.
Il n'y a pas de cieux.
Eddie resta sec.
J'aimerais que tu m'en dises davantage sur les concours de devinettes des fêtes de Gilead, Roland, fils de Stephen.
À midi, lors des fêtes de la terre vide et de la pleine terre, entre 16 et 30 joueurs se réunissaient dans le hall aux aïeux qu'on ouvrait pour l'occasion. C'était les seules fois de l'année où le menu peuple, boutiquiers, fermiers, rancheros et autres étaient admis dans le hall aux aïeux, et ce jour-là, il y avait foule. Le regard du pistolero s'était fait lointain et rêveur. Jake lui avait vu la même expression dans cette autre existence auréolée de brume, quand il lui avait raconté comment, avec ses amis Cuthbert et Jamie, il s'était faufilé sur le balcon de ce même hall pour assister à un bal. Jake et Roland gravissaient alors les montagnes, talonnant Walter, l'homme en noir, quand Roland lui avait fait ce récit. Martin était placé à côté de ma mère et de mon père, avait dit Roland. Je les reconnaissais, même de si haut, et à un moment, il a dansé avec elle, lentement, en tourbillonnant, et les autres leur ont cédé la place sur la piste et ont applaudi quand ils ont eu fini. Les pistoleros n'ont pas applaudi, eux. Jake observa Roland avec curiosité, se demandant une fois encore d'où venait cet homme étrange. Et pourquoi ? On plaçait un grand tonneau au centre, poursuivit Roland. Et chaque joueur y jetait une poignée de rouleaux d'écorce sur lesquels figuraient des devinettes. Plusieurs étaient anciennes, ils les tenaient de leurs aînés ou bien les avaient glanées dans des livres. Mais les plus nombreuses étaient nouvelles, inventées pour l'occasion. Trois juges, dont l'un était toujours un pistolero, rendaient leur verdict quand on les annonçait à haute voix. Et elles n'étaient acceptées que s'ils les jugeaient bonnes.
« Ben, il faut qu'une devinette soit bonne !»
C'est ainsi qu'il jouait aux devinettes, dit le pistolero. Un léger sourire fleurit sur ses lèvres au souvenir de ses jours d'autrefois, quand il avait le même âge que le garçon meurtri et couvert de bleu assis en face de lui, le bafouilleux sur ses genoux. Il jouait des heures d'affilée. On formait un rang au centre du hall aux aïeux. La position de chacun y était déterminée par tirage au sort, et comme il valait mieux se trouver en queue qu'en tête, chacun espérait tirer un nombre élevé, même si le gagnant devait répondre correctement au moins à une devinette.
Cela va de soi.
À tour de rôle, hommes et femmes, en effet certains des meilleurs joueurs de Gilead étaient du sexe féminin, s'approchaient du tonneau, tiraient une devinette. Si la devinette n'était toujours pas trouvée au bout de 3 minutes écoulées dans un sablier, le joueur devait sortir du rang.
Et on posait la même devinette au suivant ?
Oui.
Alors il avait davantage de temps pour réfléchir ?
Oui.
Je vois.
Roland tica.
Épatant.
Il veut dire amusant, expliqua posément Suzanne.
Roland haussa les épaules.
Pour les spectateurs, peut-être, mais les participants prenaient la chose très au sérieux. Très souvent, tout se terminait par des disputes, voire un pugilat après la remise du prix. Et c'était quoi le prix, Roland, fils de Stephen ?
Loi la plus grasse de la baronnie, et chaque année, Cort, mon instructeur, l'emportait chez lui.
Ça devait être un fameux joueur, dit Blaine avec respect. J'aimerais bien qu'il soit ici.
Et moi donc, songea Roland.
Es-tu prêt à entendre ma proposition, Blaine ? Je l'écouterai avec le plus grand intérêt, Roland de Gilead.
Que les prochaines heures soient notre jour de fête. Puisque tu veux apprendre de nouvelles devinettes, tu ne nous poseras donc aucune des millions de celles que tu connais déjà.
Correct jusque-là. Nous ne saurions pas en résoudre les trois quarts de toute façon. Je suis sûr que tu en connais certaines qui auraient fait sécher Cort en personne s'il les avait tirées du tonneau.
Roland n'en aurait pas donné sa tête à couper, mais l'heure de jeter l'éponge et de fumer le calumet de la paix avait sonné.
Ça va de soi.
Au lieu du noir, ce sont nos vies qui seront le prix, proposa Roland. Nous te poserons des devinettes tout en roulant, Blaine. Si, à notre arrivée à Topeka, tu les as toutes résolues, tu pourras mettre à exécution ton plan initial et nous tuer.
Voilà quelle sera ton noix. Mais si jamais nous te collons, si jamais une devinette tirée du livre de Jake ou de notre imagination te laisse sans réponse, tu devras nous emmener à Topeka, puis nous libérer, afin que nous puissions poursuivre notre quête. Voilà quel sera notre roi.
Silence. Tu as compris ?
Oui. Tu es d'accord ?
Silence encore plus grand que Blaine le Monod. Eddie, raide sur son siège, un bras passé autour de Susanna, contemplait le plafond du compartiment de la baronnie. La jeune femme, la main gauche posée sur son ventre, caressait le doux secret qui s'y nichait peut-être. Jake effleurait à peine le poil doté, évitant les touffes poissées de sang là où le bafouilleux avait été lardé de coups de poignard. Ils attendirent que Blaine, le véritable Blaine, à présent loin derrière eux, vivant d'un semblant de vie sous une cité dont tous les habitants gisaient morts de sa propre main, réfléchisse à la proposition de Roland.
« Oui, » dit-il enfin, « je suis d'accord. Si je résous toutes les devinettes que vous me poserez, je vous emmènerai à l'endroit où le chemin s'achève, dans la clairière. Si l'un de vous me pose une devinette que je n'arrive pas à résoudre, j'épargnerai vos vies et vous conduirai à Topeka, d'où vous pourrez poursuivre votre quête de la tour sombre, si vous en décidez ainsi. » « Ai-je bien compris les termes de ta proposition, Roland, fils de Stephen ?»«
Oui. »«
Top là, Roland de Gilead. Top là, Eddie de New York. Top là, Susanna de New York. Top là, Jake de New York. Top là, Otte de l'Entre-deux-Monde. »
Otte leva brièvement la tête en entendant son nom.
Vous formez un quartet, un tout fait de plusieurs. Moi aussi. Quel est le plus fort des deux ? Voilà ce qu'il nous reste à déterminer.
Il y eut un instant de silence rompu uniquement par l'incessant martèlement des turbos à transmission lente qui les transportaient à travers les terres perdues et le long du sentier du rayon vers Topeka où s'achevait l'entre-deux-monde. Et commençait le monde ultime.
« Eh bien !»
s'écria la voix de Blaine.
jetez vos filets, vagabonds, et que la joute commence !»
Merci, et à bientôt chez Audible.